c'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûre de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans Secret livré. On se retrouve aujourd'hui pour un cinquième épisode consacré à une œuvre formidable et au format un peu particulier. En effet, on a parlé de romans, on a parlé de pièces, mais jamais encore n'a été abordée la question des nouvelles dans cette émission. Un manquement grossier qu'on tâchera de rectifier dans l'heure qui suit. Alors la dernière fois, vous vous rappelez, je vous parlais de Never Let Me Go, roman phare de Kazuo Ishiguro, qui parle d'un drôle de monde un peu différent du nôtre, puisqu'on y trouvait des clones. Eh bien, le recueil de nouvelles qu'on aborde aujourd'hui est en fait tout aussi étrange. Pas de clonage, mais un monde qui peut nous sembler tout aussi lointain. Les histoires se déroulent dans un lieu devenu pratiquement métaphorique, le Sud américain. Théâtre d'un des conflits les plus importants du 19e siècle, le Sud américain est un ensemble géographique devenu historique, notamment lors de la guerre de sécession qui déchira, vous le savez, la nation américaine entre 1861 et 1865. Alors les causes du conflit étaient à l'époque nombreuses et nuancées, mais bien sûr le temps dilue tout, et on en retient ceci, le nord était contre l'esclavage, le sud était pour, et tout ce petit monde s'est battu pour savoir à quel côté l'histoire donnerait raison. Alors nous, évidemment, nous avons le privilège de savoir, c'est le nord qui l'emporte, et le sud qui a été contraint de changer. De l'ancien sud au nouveau sud, une série de fissures s'installe dans l'ego sudiste que l'on tâchera d'explorer aujourd'hui. Alors tout cela, c'est le décor de bien des nouvelles de celles dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit de Flannery O'Connor, une écrivaine talentueuse, prolifique, à qui l'on doit 2 romans et 30 de nouvelles qui nous intéressent particulièrement dans cette émission. Alors je l'ai choisie personnellement parce que je l'ai découverte en classe prépa il y a 7 ans et qu'elle ne m'a pas quittée depuis, et parce que la variété des thèmes de son œuvre est passionnante. Du passage à la modernité économique jusqu'aux bigoteries des faux chrétiens, en passant par les freaks, Flannery O'Connor nous dévoile les rouages de l'âme humaine avec autant d'humour que de cynisme, autant de froideur réaliste que de révélation salvatrice. Alors comme toujours, j'ai avec moi un invité. Pour parler de Flannery O'Connor, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios Monsieur Jacques Potier, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialisé en études américaines et plus spécifiquement en littérature du Sud. Auteur, entre autres, d'un livre « Les nouvelles de Flannery O'Connor » publié en 2004 aux éditions du Temps. Alors bonjour Monsieur Jacques Potier, merci beaucoup d'être venu.
Bonjour Claire.
Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de pourquoi Flannery O'Connor, pourquoi avoir dédié du temps pour écrire sur son œuvre ?
Alors l'occasion du livre, c'était une occasion qui est proche de la raison pour laquelle vous avez découvert Flannery O'Connor, c'est-à-dire que j'avais l'occasion d'écrire un livre sur un auteur qui m'était cher parce qu'il était au programme de l'agrégation.
Formidable, une excellente raison. Moi-même ayant passé l'agrégation, ça me rappelle des chouettes souvenirs.
Mais enfin, c'est vrai que j'avais très envie d'écrire de toute façon là-dessus, mais c'est quelquefois difficile de faire paraître une étude sur la littérature, parce que les éditeurs trouvent qu'il n'y a pas assez de public pour ce genre de livre.
Bien, j'espère que le public est en train d'écouter Secret livré et que du coup, ça va diversifier les achats. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans l'émission.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Well, I wish I was in the land of cotton. Old times, they are not forgotten. Look away. Look away, look away, Dixieland.
Alors, comme à chaque fois, je vais commencer par vous parler de l'époque. Flannery O'Connor naît dans le sud américain, en Géorgie précisément. Elle habite une région qui va connaître des heures difficiles, au même titre que le reste de l'Amérique d'ailleurs pendant la Grande Dépression des années 30. Jusque-là, tout est normal, oui, sauf que le sud arrive à la crise économique avec déjà son lot de blessures. Aujourd'hui, si je vous parle du Sud américain, du American South, parce qu'en général c'est encore plus évocateur en anglais, vous pensez sans doute à ça.
Jolene, Jolene, Jolene,
ça.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout.
Ou encore à ça.
Charlie run the devil out of Georgia, Lord, and the South's gonna rattle again. Yeah, the South's gonna rattle again.
En résumé, dans l'imaginaire commun, dans le Sud, on mange du maïs, on est hors la loi, on a peur que d'une chose, des Yankees du Nord qui viennent piquer nos poulets et nos droits. Une large partie de la tradition musicale country vient et parle du Sud d'ailleurs, et notamment du havre de paix qu'il représente. Les chanteurs country entonnent des refrains sur le fait de rentrer chez soi, tellement la vie y est plus douce. Vous n'êtes d'ailleurs sans doute pas passé à côté de l'excellent titre de John Denver, Country Roads Take Me Home, qui demande justement aux routes de campagne de le ramener chez lui.
Take me home to the place.
La country et le sud ne sont pas des catégories tout à fait identiques, mais elles se recroisent pour un grand nombre de productions, tant dans les sujets que dans le traitement obsessionnel de ces sujets. Le chanteur Steve Goodman d'ailleurs s'est plu à parodier cela en 1971, dans une chanson assez particulière. Au début, on l'entend expliquer au public que le prochain morceau incarne toute la country. On y entendra donc, selon lui, une histoire de train, une histoire d'évasion de prison, une histoire de vieux chien qui aboie à la lune, et j'en passe, vous voyez l'idée. Le public, familier des concerts de country, est complice dans la moquerie et Goodman va même jusqu'à imiter les différentes voix dites « country » qui passent à la radio. Alors au-delà de la musique, le Sud d'aujourd'hui est encore très évocateur, et ça c'est parce qu'il s'est longtemps distingué du reste, du Nord et de l'Ouest donc, deux régions qui sont elles-mêmes chargées, mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Comme Simone de Beauvoir l'affirmait dans le deuxième sexe, le masculin est perçu comme le pôle à la fois positif et neutre. Et je pense qu'il n'est pas exagéré de dire que le Sud-Américain est souvent à la géographie ce que le féminin est au genre, l'autre le négatif. Réfléchissez, si je vous dis que je viens du Nord, vous pensez sans doute New York, vous pensez peut-être Boston, bref, vous pensez Ivy League et petites lunettes intellectuelles. En revanche, si je vous dis que je suis texane, soyez honnête, vous pensez à quoi ? Alors, d'où viennent-ils ces stéréotypes ? Commençons par le début. Jusqu'à la fin de la guerre civile américaine, la région évoque principalement encore une grande richesse agricole et un cadre de vie idyllique. Visualisez Tara, le grand domaine que possède la famille de Scarlett O'Hara dans « Autant en emporte le vent ». Tara, c'est une immense bâtisse blanche au milieu d'hectares de champs de coton qui rapporte très gros aux parents de Scarlett et lui permettent de vivre grand train. On en reparlera, mais il faut noter l'impact incroyable qu'a eu ce roman de Margaret Mitchell, publié pourtant en 1936, soit 71 ans après la fin de la guerre de sécession. Vendu à des millions d'exemplaires, il a donné un formidable écho renouvelé au thème de la chute du Sud. Alors la guerre a coïncidé avec l'affaiblissement et enfin la disparition des grandes familles de planteurs qui vivaient sur le dos de la main-d'œuvre esclave. L'émancipation des Afro-Américains, entamée par Lincoln en 1863, marque la fin de l'idylle pour de nombreux sudistes et cela n'a pas été très bien vécu. Alors ce Sud dont je vous parle, la grandeur de cette aristocratie d'un genre particulier, tout cela demeure comme un rêve longtemps après sa disparition. Il s'agit du vieux Sud, par opposition au nouveau donc, qui verra le jour progressivement après la guerre. Et à mesure que le vieux fait place au neuf, le mythe s'intensifie. C'est une des raisons pour lesquelles, encore aujourd'hui, de nombreuses œuvres font référence à cette région comme un paradis perdu. Après la guerre, logiquement, c'est la reconstruction. Pendant cette période, Lincoln veut d'abord se montrer magnanime avec le Sud, tant il est conscient de l'affront vécu par les perdants, et surtout, tant il est convaincu de l'urgence d'unifier à nouveau les États-Unis. Il est jugé trop laxiste cependant par le Congrès, alors dominé par les radicaux qui, comme leur nom l'indique, sont partisans d'une transition bien plus marquée avec l'ancien Sud. La chance n'est pas de leur côté, cela dit, puisque après l'assassinat de Lincoln, c'est Andrew Johnson qui prend les rênes. Ancien sénateur du Tennessee, état du Sud donc, il est attaché à son terroir et s'agite encore moins que Lincoln. En gros, ne changez rien, vous êtes super. Le Sud s'empresse d'acquiescer et instaure les Black Codes. Alors les esclaves ont été émancipés, très bien, mais ces codes permettent de les priver en fait de toutes les libertés qui devraient leur revenir de droit. Une interdiction particulière a attiré mon attention, les Black Codes stipulent que les anciens esclaves n'ont pas le droit, je cite, d'être oisifs. Cette interdiction à elle seule incarne toute la violence symbolique engagée envers les Noirs américains. Il leur est en fait refusé d'être autre chose que de la main-d'œuvre, il leur est refusé tout simplement d'être des humains à part entière. Mais le vent ne tarde pas à tourner à nouveau. Cette fois-ci, il souffle fort pour faire gonfler les voiles des radicaux, ceux qui veulent, vous vous rappelez, changer le Sud. Il remporte les législatives de 66 et utilise ce levier pour faire passer un nombre de mesures. On occupe militairement la zone, on remplace les hommes politiques du Sud par ceux du Nord, souvent les moins expérimentés. Alors cela ne manque pas d'être souligné par les locaux, qui estiment en grande partie que ces nominations arbitraires sont des affronts à l'intégrité de leur région bien-aimée. Néanmoins, par conviction ou opportunisme, qui sait, certains sudistes se rallient à la cause des vainqueurs et deviennent immédiatement des traîtres à la cause. Et cette cause, elle porte un nom. Vous l'avez compris, cette période de reconstruction marque profondément l'inconscient du Sud. Il n'y a pas que la guerre qui a été perdue, c'est tout le reste aussi. Le paradis est devenu limbe, endroit de désolation et de privation. Quand Scarlett O'Hara revient dans son Tara natal, elle y trouve sa mère décédée et son père qui sombre lentement dans la folie, comme des métaphores de tout ce que le Sud est en train d'endurer. Ce ressenti est mis en mots sous une bannière qui dépasse les expériences individuelles en même temps qu'elle les rallie. Cette bannière, c'est la Lost Cause, la cause perdue. Elle apparaît d'abord dans un texte d'Edward A. Pollard, publié en 1866, La cause perdue, une nouvelle histoire sudiste de la guerre des confédérés. Alors, l'appellation « guerre des confédérés » donne déjà le ton. Cette guerre, selon eux, ne s'est pas battue à deux, mais seule. C'était la lutte pour la survie d'un patrimoine en danger, un combat perdu à cause de facteurs exogènes. C'est comme cela, en tout cas, que l'histoire est vécue par une partie de la population. Alors, ce n'est pas pour parler de la politique intérieure américaine que j'insiste sur la guerre, mais pour souligner les blessures vécues par le Sud, autrefois grandioses et tout à coup mises à genoux, réduites à s'excuser d'être là. La mentalité sudiste a gardé, encore aujourd'hui, une certaine impression de chute et à la fois d'exceptionnalisme et d'unicité. Dans les nouvelles d'O'Connor, on décèle cette présence fantomatique du vieux Sud auquel certains de ses personnages sont encore persuadés d'appartenir. Il alimente les rêves de certains et les cauchemars de certains autres. Comme tous les mythes, il fonctionne en filigrane, on ne le nomme pas, mais il contient les restes d'une grandeur passée, de blessures non digérées et d'aspirations inavouées. Il est, en fait, tout ce que la grande histoire peut être à la petite, et c'est ce que nous verrons en seconde partie d'émission. Running for my own life now, I'm really turning some time, looking up to the sky for something I may never find. Stop.
let me in if I break and be quiet if I shatter. Get tired of looking, you know.
Secret livré.
Alors déjà, est-ce qu'il y a des erreurs dans ce que je viens de mentionner ?
Non, il y a peut-être des différences d'accentuation qu'on pourrait donner. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, par exemple, par rapport à « Autant en emporte le vent », c'est qu'autant en emporte le vent, comme vous l'avez très bien dit, c'est 1936. Donc,
c'est une réécriture.
C'est un roman qui travaille beaucoup sur la nostalgie du Sud. Mais le Sud, au milieu du 19e siècle, n'était peut-être pas empreint d'une telle aura que ce qu'on a maintenant. C'était peut-être une région plutôt plus inquiétante, hein, mal connue et associée à des choses qui étaient peut-être plus sombre que cette espèce de société idéale qu'on associe à Autant en emporte le vent. D'ailleurs, Autant en emporte le vent, il faudrait distinguer le roman que maintenant, je pense, peu de gens ont lu en entier. Il fait quand même 1000 pages.
Oui, il est très gros.
Et le film.
Et justement, vous dites que donc ce Sud, il a été construit a posteriori. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu une telle insistance justement sur ce mythe ? Parce qu'il y a plusieurs mythes fondateurs, entre guillemets, aux États-Unis. Voilà, il y a le rêve américain, il y a la maison sur la colline, les protestants qui ont été choisis par Dieu, tout ça. Et quelle place occupe le Sud justement dans cette mythologie américaine ?
Oui, alors ça, c'est une très riche question, une très bonne question aussi. On a en fait l'idée qu'on se fait de l'Amérique est très souvent liée à l'image des puritains. Donc la cité sur la colline, c'est ça, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là une Amérique de pionniers, une Amérique de migrants qui s'installent en Amérique, alors que le Sud, à l'origine, c'est simplement une société coloniale, c'est-à-dire que les gens sont là pour faire de l'argent. Mais par exemple, ils continuent d'envoyer pendant pas mal de temps leurs enfants faire leurs études à Oxford ou Cambridge, en Grande-Bretagne, ils se considèrent toujours comme des Anglais. Donc, c'est pas du tout le même genre de colonisation que dans le Nord.
Et donc, même, en fait, les habitants du Sud ne se considèrent pas vraiment comme Américains.
Ils se considèrent plus facilement comme des Anglais. Bon, cela dit, il faut nuancer, puisque, évidemment, on sait bien que tous les pères fondateurs, les Jefferson, les Washington, Adams, pas Adams, justement, mais je veux dire... Monroe était de Virginie, mais la Virginie, c'est à la limite entre le Nord et le Sud.
Et c'est intéressant d'ailleurs cette ligne maintenant qui est imaginaire finalement. Enfin, elle a toujours été imaginaire, mais maintenant elle n'a plus raison d'être. Elle existe encore dans justement l'imaginaire américain.
Ah oui, la ligne de Mason-Dixon, effectivement, c'est traditionnellement la ligne qui sépare le Nord et le Sud. Dans la réalité à la fois culturelle et géographique, ça n'a plus grand sens. Et on pourrait la définition des États qui représentent le Sud est assez controversé. Vous avez parlé tout à l'heure du Texas. Le Texas, ce n'est pas le sud, bien que ce soit au sud. La Floride, ce n'est pas le sud. La Floride, ce n'était pas encore colonisé quand la guerre de sécession est arrivée.
D'accord. Donc, j'ai fait une erreur.
Non, ce n'est pas une erreur. C'était justement une bonne question.
Oui, bah oui, c'est vrai. Du coup, la question rhétorique, je ne me suis pas mouillée. dans les nouvelles d'O'Connor, du coup, alors je parlais justement de cette sorte de résistance à la, entre guillemets, modernisation du Sud, de l'ancien Sud, voilà. Dans les nouvelles d'O'Connor, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on voit souvent les deux côtés du spectre, c'est-à-dire il y a une nouvelle, alors là, je ne me rappelle plus le nom, mais il y a un fils qui accuse sa mère d'être complètement rétrograde. Everything that rises must converge.
Oui, c'est ça.
Tout
ce qui... Alors, en français, c'est tout ce qui monte converge.
Voilà, exactement. Et en fait, l'histoire, c'est donc ce jeune homme qui vit avec sa mère, et sa mère a l'air d'être encore complètement attachée aux habitudes du passé, et lui, voilà, se pose en intellectuel qui est au-delà de ça. Et en fait, on voit aussi que lui a sa propre petite bassesse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, lui aussi, il rêve à la vieille maison et... Et justement, donc ça, c'est un des exemples qui illustre la dualité qu'il y a dans ces nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, bien sûr. Ben, ça, c'est une nouvelle qui est assez intéressante, qui est un peu emblématique du deuxième recueil de nouvelles de Flannery O'Connor, qui est un recueil qui est très influencé par son époque, où le combat sur les droits civiques commence à être quelque chose de très important dans le Sud. Et donc, on a une présence, effectivement, de cette problématique. Et donc Julian, le fils, est partisan et progressiste, est un de ces blancs du Sud, mais progressiste, alors que sa mère est traditionnelle et considère que déjà, si les gens avaient des bonnes manières, tout irait beaucoup mieux.
Oui, c'est
et
ça.
Donc, il rêve de l'humilier.
Oui.
Et ça se passe mal.
Il y parvient.
Oui.
Oui, voilà, et sans vouloir spoiler, ça se finit mal pour lui et pour elle.
En général, ça se finit mal dans les nouvelles de Flannery O'Connor. Il n'y en a beaucoup où il n'y ait pas mort d'homme. Ou de
oui,
femme.
C'est vrai. Je crois que la moins violente, c'est le barbier où il y en a un qui se prend un coup de poing. C'est tout ce qui se passe.
When Robert E. Lee surrendered the Confederacy, Jefferson Davis was upset about it. He said, "How dare that man rescind an order from the President of the Confederate States of America?" And then somebody told him that General Lee had made the decision himself in order to save lives, because he felt that the battle coming up would cost about 20,000 lives on both sides. And he said, 240,000 dead already is enough. So this song is not about the North or the South, but about the bloody brother war. Brother against brother, father against son, the war that nobody won. And for all those lives that were saved, I gotta say, God bless Robert E. Lee. Well, the mansion where the general used to live is burning down. Cotton fields are blue with Sherman's troops. I overheard a Yankee say, yesterday Nashville fell. So I'm on my way to join the fight. General Lee might need my help. But look away, Dixie. I don't want them to see what they're doing to my Dixie. God bless Robert E. Lee. Sherman's troops burned Atlanta, and the flames lit up the sky. And those of us who survived it, watching my Dixie die. But today at Appomattox, General Lee sat down and surrendered to
to the Yankees and Ulysses S. Grant. So look away, Dixie. I don't want them to see what they're doing to my Dixie. God bless Robert E. Lee. I won't ever stop loving you, my Dixie, till they put me in the ground. And the last words they'll probably hear from me are, God bless Robert E. Lee.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
A good many people believe, of course, that Southern writing tends to the grotesque, not because we are still able to recognize freaks, but because in the South there are so many more freaks to recognize.
Flannery O'Connor voit le jour en 1925 à Savannah, en Géorgie. Bien qu'elle partage son berceau avec Scarlett O'Hara, vous l'avez maintenant compris, elle n'habite pas le même sud. O'Connor grandit pendant les années 30, largement connue sous le nom de Grande Dépression. Après l'effondrement boursier de 29, le pays connaît une crise économique d'une ampleur sans précédent. Un malheur n'arrivant jamais seul, les États des plaines américaines sont frappés, de surcroît, par une intense sécheresse qui s'accompagne de vents arides qui font rouler les boules d'herbe séchées comme dans tous vos westerns préférés. Ce phénomène est entré dans l'histoire sous le nom de Dust Bowl, et si vous avez lu la grande épopée de Steinbeck, c'est ce que fuient les personnages des raisins de la colère. La famille Jodes quitte l'Oklahoma et migre aux côtés des milliers d'autres Hokies vers l'ouest, la Californie et ses promesses cousues d'or. Le chanteur de folk, encore un, Woody Guthrie, dédie une chanson à ces hommes et ces femmes qui abandonnent leur foyer et souligne avec ironie que sans argent, les Hokies ne seront sans doute pas mieux reçus à l'ouest qu'au sud. Je cite, « Si tu n'as pas d'argent, tu ferais mieux de retourner chez toi. » Oklahoma, Kansas, Georgia, Tennessee. Bon, cet aparté sert surtout à souligner la désertion relative du Sud au profit soit des oranges californiennes, soit de la vie moderne du Nord. Car le Sud, en fait, est perçu, et encore aujourd'hui, comme tout sauf moderne. Au début du film Lolita malgré moi, une séquence passe en revue, avec un humour délibéré, tous les clichés des enfants qui ont reçu une éducation à la maison, les fameux « homeschooled kids ». On y voit une gamine précoce appliquée à épeler le nom d'un sombre fossile préhistorique.
X-Y-L-O-C-A-R-P, Xylocarp.
Et puis tout l'inverse, un groupe d'enfants assis sur une vieille charrette, leurs vieux vêtements salis et l'un d'entre eux qui récite une drôle de version de la Bible selon laquelle Dieu a créé les fusils pour que l'homme se batte contre les dinosaures et les homosexuels.
And on the third day, God created the Remington bolt-action rifle so that man could fight the dinosaurs. And the homosexuals.
Amen.
En plus de l'accent, le fameux Southern drawl, l'ambiance plante immédiatement le décor. Nous sommes dans le Sud. C'est ainsi que les habitants du Dixieland sont perçus, analphabètes, vivant dans un vaste cloaque, comme embourbés dans la boue gelée d'un passé révolu qui les empêche d'avancer. Un des auteurs qui a magistralement mis tout cela en mots est William Faulkner, figure tutélaire de la littérature du Sud. On lui doit par exemple le célèbre roman As I Lay Dying, Tandis que j'agonise, où il démontre sa formidable capacité à dépeindre le vice des familles dysfonctionnelles du Sud. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle, ces phrases sans ponctuation, cette multiplicité de points de vue qui semblent être juxtaposées, et ces images qui n'ont de prime abord aucun sens, tout cela illustre l'incommunicabilité des fantômes, l'égoïsme des hommes, et plus largement, l'inhospitalité du Sud. L'histoire, pour la résumer brièvement, est la suivante. On suit une famille dont la mère, Addie Bundren, vient de mourir, laissant derrière elle un seul vœu, que l'on ramène sa dépouille auprès des siens. Son mari et ses enfants entreprennent donc le long voyage, pendant lequel un des fils se blesse gravement, un autre met le feu à une grange, tandis que dans la carriole branlante, le cadavre d'Addie se décompose en puanteur nauséabonde. Le récit se termine avec l'internement d'un des fils, qui semblait d'ailleurs jusque-là le plus raisonnable. Ce retournement enfonce encore le clou. Décidément, on ne peut rien croire, tout est insensé, tout comme ce fils dont les dernières paroles sont un refrain, oui, 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 répété à l'infini comme un jouet cassé. Alors même un résumé plus détaillé du roman de Faulkner n'arriverait pas, je pense, à retranscrire l'atmosphère pesante, presque poisseuse, que l'on ressent à la lecture. Faulkner a en fait mis en mots ce que de nombreuses personnes pensent du Sud. C'est une région maudite, délaissée par l'avenir et rongée par le passé, et par cette cause qui est, comme ses habitants, donc perdue. O'Connor était profondément consciente d'ailleurs de l'importance de Faulkner dans le paysage littéraire de l'époque. Elle s'amuse à dire même, je cite, « Personne ne veut être en charrette sur les rails où passe le Dixie Limited ». Comprenez, le Dixie Limited, c'est l'équivalent du TGV de l'époque. Et ce train, c'est Faulkner qui avance à toute vitesse. Les artistes qui voudraient faire comme lui, mais en moins bien, risquent de passer un sale quart d'heure. Alors O'Connor, évidemment, craint cet écueil en tant que nouvelle écrivaine. Se mesurer à Faulkner sur son territoire, c'est un risque inconsidéré. Heureusement pour elle, son propre style lui délimite son propre territoire à elle. Elle s'intéresse aussi aux familles viciées, aux personnages minables, comme Faulkner et comme Zola d'ailleurs en France, mais elle s'en sert différemment. À l'époque, il y a une notion importante, celle des freaks. Cette appellation désigne les personnes en marge de la société, les anormaux, c'est-à-dire à l'époque les personnes handicapées, mais aussi les homosexuels par exemple. Il y a un intérêt assez répandu pour ces personnes et pour toutes les métaphores qu'elles peuvent incarner dans la fiction. La célèbre photographe Diane Arbus, d'ailleurs, née en 1923, en fait son sujet d'étude principale après s'être intéressée aux personnages de cirque venus à New York en 1957. Au cirque, ces personnes sont mises en vitrine. On paye pour venir regarder ce qu'on s'acharne tant à cacher partout ailleurs. Arbus reproduit la méthode avec plus d'humanité cependant. Ses œuvres déplacent le centre d'attention en suggérant que les freaks ont une identité à part entière en leur donnant grâce au cadrage une subjectivité. Elle photographie par exemple l'homme le plus grand du monde,
Robert Wadlow of Chicago, who at the ripe old age of 17 stands 8 feet 4 inches in his socks, and incidentally seems to be quite beyond the reach of young women.
Elle affirme d'ailleurs, je cite, les hommes vivent dans la peur de vivre une expérience traumatique. Les freaks, eux, l'ont vécu à la naissance, ils ont passé le test, ce sont des aristocrates. Une certaine noblesse donc se dégage de la différence et des souffrances qu'elle engendre. O'Connor dira, elle, je cite, certains pensent que les auteurs du Sud adoptent une écriture grotesque, pas par amour des freaks, mais parce qu'il y en a tellement plus ici qu'ailleurs. Elle ajoute d'ailleurs que les écrivains du Sud sont tout simplement capables de les reconnaître plus facilement que les autres, une sorte de don régional transmis par hérédité. Surtout, cela veut dire que, contrairement aux préjugés, il y a besoin de les reconnaître, et donc que les freaks ne sont peut-être pas là où on le pense. Et cette idée peut être utilisée pour retourner l'argument selon lequel le Sud est en retard et profondément malsain. O'Connor repère la faille logique et donc toute la condescendance contenue dans le discours intellectuel, affirmant, donc je cite, « Dans 20 ans, un écrivain du Sud écrira peut-être des romans sur des hommes en costume-cravate sans s'apercevoir que ceux-là sont encore plus tordus que ceux d'aujourd'hui. » En clair, on sait tout à fait dissimuler la perversion et la modernité n'est pas forcément synonyme de progrès moral. Le progrès moral, Flannery pense qu'on l'obtiendra si l'on fait l'effort de se regarder en face. Elle se sert de la figure du freak, non pas pour pointer du doigt la source du mal, mais pour articuler une discussion plus ouverte. Toute son écriture se base sur ce principe, je la cite, « La vérité ne dépend pas de notre capacité à l'accepter ». C'est pour cela qu'on trouve, je pense, beaucoup de violence dans ses nouvelles. Cette violence n'est jamais gratuite, ni condamnée comme l'œuvre d'un méchant contre un gentil, elle sert cependant à secouer le lecteur. Dans ces nouvelles, il n'y a d'interprétation univoque que pour celui qui la cherche, ce qui revient selon elle à se voiler la face. Et son but au contraire, c'est arracher le voile. Les actes de violence, et ils sont nombreux, servent comme des déclencheurs qui suspendent la compréhension immédiate. On ne saisit pas toujours ce qui vient de se passer, et sa prose économe achève encore plus de précipiter notre surprise. On a beau chercher, personne ne semble être jugé ni pardonné. Alors à quoi bon ? Eh bien c'est peut-être pour créer une confusion, et pour retirer au lecteur sa liberté de juger. Comme le disait Gandalf à Frodon dans les mines de la Moria,
« Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon ? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. »
Dans le vide qui se crée, Une brèche s'ouvre dans le champ émotionnel du lecteur, qui ne comprend pas, et qui peut donc se mettre à réfléchir et à se faire sa propre idée de la résolution possible. La foi d'O'Connor n'a pas de prétention didactique, elle se contente de montrer. Et d'ailleurs, le critique Joseph Zornado, dans un article très intéressant, que vous trouverez sur la page de l'émission, affirme, je cite, que « pour O'Connor, la fiction, comme la religion, n'explique rien, mais au contraire épaississe le mystère. Le mystère d'ailleurs meurt un peu quand on l'élucide, remplacé par une construction intellectuelle fièrement brandie comme une sorte de trophée de chasse. Et la taxidermie, on le sait, demande à tuer la bête avant de l'empailler. » Une image très parlante, je trouve, et qui explique le procédé narratif d'O'Connor. Elle met en lumière non pas la faiblesse intellectuelle du lecteur, qui serait, après tout, capable de comprendre ce qu'il y a sur la page, mais plutôt le lien indéfectible entre la métaphore et le sens, un lien qui n'est pas linéaire et qu'il faut observer longuement afin d'en déduire quelque chose. Deux exemples. Dans sa nouvelle A Circle in the Fire, les enfants errants que Mrs. Scope accueille à reculons sur sa propriété, en leur offrant quand même des biscuits pour se donner l'air hospitalier, eh bien, ces enfants mettent le feu à sa forêt. On ne sait pas pourquoi. Dans Good Country People, Joy, une jeune femme qui a une jambe en bois et se pense au-dessus de tout le monde parce qu'elle est athée et diplômée de philosophie, s'entiche finalement d'un vendeur de bibles ambulant. Celui-ci l'attire dans un lieu isolé avant de lui voler sa jambe artificielle et de déclarer en riant « je ne crois en rien ». Deux exemples qui laissent pantois mais qui ont en commun ceci, la fierté des personnages et surtout leur hypocrisie est violemment punie. Car s'il y a une chose qu'O'Connor déteste par-dessus tout, c'est la fausseté. Rien de moins chrétien qu'une famille bigote qui se dit la plus chrétienne de toutes.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Alors, dans cette partie, je suis passée un peu rapidement sur la tradition littéraire dans laquelle s'intègre O'Connor. Je n'ai mentionné que Faulkner, mais il y a une grande tradition qui précède cette écrivaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Un écrivain s'inscrit toujours au carrefour de plusieurs traditions. Pour rebondir sur certaines notions que vous avez abordées, il y a la question de la tradition gothique américaine et puis il y a la tradition de la nouvelle. Alors peut-être formellement, on va commencer par la nouvelle. Je crois que la nouvelle américaine et peut-être la nouvelle française, la nouvelle mondiale, d'une certaine manière, a été définie par Poe, Edgar Allan Poe. Tout simplement un texte qui peut se lire en une fois. Alors, Flannery O'Connor a essayé de travailler d'abord un roman, et ça devait être difficile parce que ça lui a pris 4 ou 5 ans. Et en fait, le roman lui-même est constitué d'une suite de chapitres qui ont même, dans certains cas, pu être détachés comme nouvelles. Donc, c'était pas son
genre
médium.
De prédilection, oui.
Voilà. Donc il y a deux romans, il y a eu un deuxième roman, et ce sont Les violents qui l'emportent, qui est aussi un titre intéressant puisqu'il aborde la question de la violence et de son ambiguïté dont vous avez parlé. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que justement la question de la violence actuellement aux États-Unis c'est quelque chose dont on parle, c'est-à-dire que les politiques eux-mêmes disent le monde est violent, donc faut pas vous étonner, ouais. La violence est partout.
Ça justifie...
Tout se justifie, oui. Pour en revenir à la nouvelle, alors la nouvelle, le modèle est effectivement Poe, c'est-à-dire que la nouvelle, c'est quelque chose qui va arriver à un personnage, et typiquement, dans le cas de Flannery O'Connor, c'est un personnage à qui va arriver quelque chose, il va lui arriver une révélation. Le gothique, maintenant. Alors, le gothique, dans la tradition britannique, c'était des histoires de monastères ou de châteaux hantés. Évidemment, la version américaine, pas de châteaux hantés. Les maisons en bois n'ont pas une très longue durée de vie, donc de toute façon, on ne peut pas tellement les hanter. Donc, en fait, ce qui s'est élaboré, c'est l'idée que finalement, les fantômes intéressants en Amérique, c'est les fantômes de l'âme humaine. Donc finalement l'inconscient. Et on voit très bien ça dans les nouvelles de Hawthorne. Et bien que Hawthorne soit un auteur du Nord, O'Connor avait une grande sympathie, une grande et largement en continuité de ce qu'écrivait Hawthorne.
Est-ce que vous avez des exemples dans Hawthorne ? Moi j'ai seulement lu La Lettre écarlate. Est-ce que c'est ce à quoi vous pensez ou c'est dans d'autres
Je pensais aux nouvelles, parce D'accord. que là, enfin, qui sont pas des nouvelles, qui sont des contes. Et justement, Flannery O'Connor disait souvent que finalement, elle était dans ce schéma-là, c'est-à-dire que les nouvelles n'étaient pas forcément très réalistes, mais qu'il fallait plutôt les voir comme des contes, d'où le rôle justement des freaks, des monstres, parce que le monstre accentue les caractéristiques d'un personnage et donc fait voir les choses de façon plus éclatante. Et il y a une autre citation de Flannery O'Connor qui est bien connue quand elle disait quand les gens sont sourds, il faut crier.
C'est pas mal, je vais l'utiliser.
Oui. To the hard of hearing, you shout.
You shout. Et justement, alors vous parliez des freaks, enfin des voilà, oui, qui dramatisent les choses, voilà, qui permettent de renforcer un propos par la forme. Il me semble qu'il y a une citation que j'ai pas mot pour mot ici, mais elle disait j'aime montrer des choses dramatiques, mais sous une forme très réaliste. C'est-à-dire que à l'inverse d'une grande veine de littérature qui montre des choses banales du quotidien, mais minutieusement, c'est-à-dire en dramatisant le rien, elle fait l'inverse. Elle montre des choses tout à fait extraordinaires, comme si c'était tout à fait normal. Et c'est ce que j'évoquais aussi un petit peu dans cette partie.
Mais ça, c'est la grosse réussite du gothique américain, justement. On n'a plus de fantômes et de vampires et des choses... Enfin, bien sûr, dans la tradition contemporaine, il y en a aussi. Mais disons que dans cette tradition qui est passée par Poe, justement, par Hawthorne, on a des effets tout à fait aussi intenses qu'avec le gothique britannique, mais avec des histoires qui sont réalistes. Et en fait, le fantastique... La puissance de l'impression sur le lecteur, elle est de l'ordre du fantastique, c'est-à-dire de la perception du narrateur.
Oui, c'est ça.
Et c'est cette espèce de trouble mental qui crée l'impression d'irréalité et de fantastique. Le Sud était associé justement à une région un petit peu inquiétante.
Oui.
Où il y avait des animaux dangereux, il y avait des crocodiles. On ne s'imagine pas de nos jours, mais les crocodiles ont très tôt été associés aux régions du sud de l'Amérique. D'ailleurs, dans toutes les allégories de l'Amérique qu'on voit dans les statues du château de Versailles ou autres, d'ailleurs, au plafond des églises, l'Amérique est symbolisée par, évidemment, une femme avec une coiffe de plumes, mais avec à ses pieds un crocodile. Le Sud était donc vu comme une région inquiétante et dangereuse.
D'accord.
Et d'ailleurs, les agences de tourisme, après la guerre de sécession, pour faire revenir les nordistes dans le Sud et apporter justement une économie touristique qui manquait, ont joué sur le côté inquiétant.
D'accord, et ça vendait ?
Ben, ça vendait, oui. On vendait les bayous.
Je vois l'attrait.
Ça remplaçait les toiles d'araignée, si vous voulez.
Et c'est amusant, justement, vous mentionnez un petit peu plus tôt le fait qu'en Amérique, on n'a pas de ruines, en fait. On n'a pas de grands châteaux.
Alors, on en a dans le sud, puisque justement, les grandes plantations ont été saccagées par la guerre.
Mais elles sont jeunes.
Là, on a des ruines, on a des belles ruines.
Oui, c'est des belles ruines, mais elles sont jeunes. Et y a toujours eu une sorte de petit complexe américain vis-à-vis de la jeunesse de la nation. Est-ce que ça vous intéresse aussi cette question de rapport au passé ? Là, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais le rapport à sa propre jeunesse ?
C'est une vaste question.
Oui, je vous prends au dépourvu.
En fait, même dans le Sud, en fait, on peut remonter avant même la période coloniale, puisqu'il y a des restes de monticules indiens, Indian Mounds, qui sont... l'équivalent, si vous voulez, des pyramides mésoaméricaines. Mais donc, il y aurait des monuments plus anciens.
C'est qu'il y a deux consciences, du coup, aux États-Unis. Il y a la conscience des vrais Américains, les premiers.
Oui.
Et puis, il y a la conscience de la société américaine que nous, telle que nous, on la connaît, c'est-à-dire les fils de colons.
Oui, bien sûr.
Qui, eux, sont jeunes. Et pour revenir, juste dernière question sur la forme. Vous évoquiez le format de la nouvelle,
oui,
qui est donc un format rétréci de l'intrigue. Oui. Alors, pourquoi vous pensez que O'Connor est si intéressé par ce médium? Est-ce que c'est parce que voilà, la révélation, ça accélère tout, et du coup la révélation est plus dramatique, plus saillante?
Alors c'est effectivement un médium qui s'adapte au genre de message qu'elle veut faire passer, parce que elle est inquiète, elle voit une déchristianisation même du Sud, et ce qu'on a du mal à imaginer de nos jours, évidemment, puisqu'il s'est largement rechristianisé. Et donc, elle veut faire passer le message que l'incarnation du Christ est quelque chose d'important. Bon, d'où l'urgence de faire quelque chose qui soit facilement lisible, qui soit un peu coup de poing. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a des critères, qui viennent de sa formation. C'est une des premières écrivaines contemporaines qui a été formée dans l'école d'écriture d'Iowa. Et ça a été très, très important pour elle. Et la pédagogie de ces ateliers pour écrivains était de travailler justement sur les nouvelles. Les nouvelles, en traduction d'ailleurs très souvent, des nouvelles de Maupassant, des nouvelles de Tchekhov en particulier. Et Flannery O'Connor cite souvent dans ses lettres, parce qu'il faudrait parler de toute sa correspondance qui est passionnante, elle cite très souvent les nouvelles de Tchekhov comme modèle.
D'accord.
Et donc, ayant travaillé sur des nouvelles, il était naturel qu'à la sortie, de son diplôme, elle écrive des nouvelles. Et d'ailleurs, ses premières nouvelles, vous aviez cité le Barbier tout à l'heure, ou le Géranium, c'est des nouvelles qui font partie de son mémoire de master.
Ah, très bien.
Enfin, de master,
oui.
On transpose.
Oui, bien sûr, oui, oui.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Alors justement, vous mentionniez le fait que Flannery O'Connor était donc une personne croyante. Mm-hmm. Sa foi est importante dans cet ensemble d'œuvres, de nouvelles. C'est une question qui a tendance à être un peu épineuse. On a tendance à vouloir mettre ça de côté ou sous le tapis, comme pour garantir la qualité de l'œuvre, comme si la neutralité ou l'athéisme, ça garantirait de la qualité d'une œuvre littéraire. Pourquoi déjà? Et comment est-ce que ça a été reçu? Comment c'est toujours reçu maintenant la foi d'O'Connor dans la critique?
Alors, ça c'est une question assez complexe. C'est-à-dire qu'il est vrai que les œuvres de Flannery O'Connor sont très étudiées dans les établissements catholiques aux États-Unis. Parce qu'on a vraiment la garantie qu'on a un auteur catholique. Ce qui est, bon, il y a beaucoup d'auteurs protestants, comme on sait. Et d'ailleurs, je me souviens que dans l'enseignement de ces nouvelles, il était difficile. Enfin, une des difficultés, c'était de faire sentir aux étudiants que la religion qui était derrière ces nouvelles n'était pas la religion des puritains, mais c'était vraiment une religion catholique. Mais en même temps, une religion catholique qui n'est pas celle qui nous est la plus familière en
oui.
France. C'est une religion qui fait une large place à la grâce, moins aux œuvres. Et d'ailleurs, beaucoup de personnages de Flannery O'Connor sont des gens bien, donc d'où le titre de la première nouvelle, hein, les gens bien ne courent pas les rues, mais qui est traduit en français en fait plutôt par les braves gens, mais je pense qu'il vaudrait mieux dire les gens bien. Et il ne suffit pas d'être des gens bien pour aller au paradis, il faut encore savoir reconnaître aussi la grâce. La grâce, c'est reconnaître sa fêlure et reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé.
Parce que c'est vrai que c'est souvent le cas, même les personnages qui semblent bien, justement, des gens bons, finalement, ça révèle des failles et des petitesses, une sorte d'égoïsme ou des petites choses. Et finalement, même ces personnes-là sont, entre guillemets, punies dans les nouvelles. Alors, à la première lecture, on se dit un peu, bon, bah, qu'est-ce qui... On ne peut pas gagner, quoi. c'est assez amusant, justement, à la lecture de... Enfin, moi, ça m'avait frappé, je me rappelle, à la lecture. Je m'étais dit, mais personne n'est bon dans ces nouvelles, alors, si tout le monde perd.
Oui, effectivement. Et la violence n'est pas forcément du côté... Enfin, la violence peut être du côté de Dieu, en fait.
Oui, tout à fait. Justement, il y a des actes de violence... d'une intensité assez décoiffante, mm-hmm. qu'on imputerait de base à des envoyés de Satan au mal. Et en fait, on se rend compte que c'est eux les ouvriers de cette révélation, mm-hmm. justement. Ça, c'est intéressant dans toutes les nouvelles.
Presque, oui, vous avez raison, dans presque toutes les nouvelles, il y a en fait un choc, une violence, et c'est cette violence qui secoue les certitudes du personnage ou des personnages et leur fait sentir que, ma foi, ils ne sont pas si parfaits que ça.
Oui, exactement. Même à un moment, je ne sais plus quel personnage, donc il y a souvent donc des femmes qui sont à la tête d'une propriété.
Oui, souvent, voilà. Oui, ça c'est un schéma qu'on retrouve dans 4 ouais. ou 5 nouvelles. Oui,
avec une fille, voilà.
Ou un garçon, quelquefois aussi.
Voilà, et il y en a une, je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais cette petite bonne femme a un différend avec une amie, je crois, ou je ne sais plus. Et il me semble qu'elle s'adresse mal également à son valet de ferme, qui est un homme noir, donc elle fait preuve de racisme, il me semble, et elle se fait empaler par un taureau.
Oui, Greenleaf.
C'est Mrs. Greenleaf. May. Voilà, c'est Mrs. May. Et à la lecture, on se dit, ça y est, j'ai trouvé, le taureau, c'est le mâle, c'est un animal noir avec des cornes. Et en fait, non, enfin, c'est pas du tout aussi linéaire que ça.
Non, c'est ça la force aussi. Bien sûr. Et puis en plus, c'est un peu un taureau mythologique aussi, parce qu'une des influences dont je n'ai pas parlé d'ailleurs tout à l'heure, parce que je commençais à parler des influences, et il y en a beaucoup. J'ai parlé aussi bien des Russes que des Français, mais la mythologie, en fait. Flannery O'Connor avait des amis qui étaient les Fitzgerald, dont lui était un spécialiste de littérature grecque antique et spécialiste de la tragédie grecque en particulier. Il avait traduit Édipe Roy. Et donc Flannery O'Connor était aussi sous cette influence-là.
Elles sont nourrissées aussi.
Donc il y a un côté tragédie grecque dans la. Et la tragédie, c'est un petit peu de la même chose, c'est-à-dire que le héros croit qu'il est très fort, et les dieux lui font croire qu'il fait une erreur, la fameuse hubris, sans le vouloir,
oui.
mais dont il est sévèrement puni.
Oui. Et à partir de là, c'est un rouage sans fin.
Et le dieu d'O'Connor se conduit un peu comme les dieux grecs.
Il y a une citation d'O'Connor qui m'a assez marquée. Elle dit que toute la fiction qui vient du Sud est immédiatement qualifiée de grotesque par le lecteur du Nord, à moins qu'elle ne soit grotesque, auquel cas elle est appelée réaliste.
Oui.
Donc évidemment, c'est une pique hein, au lecteur du Nord, comme si l'exagération était limite plus authentique en parlant du Sud que le réel lui-même. Et ça m'a fait penser à Faulkner, du coup, qui a créé... le Yoknapatawpha County, un lieu imaginaire, pour l'intrigue de plusieurs de ses romans. Voilà, pourquoi est-ce que cet imaginaire fait plus vrai que le vrai Sud ?
Bon, c'est l'aspect... C'est pas tout à fait la même question, en fait. Le Yoknapatawpha, c'est un petit peu comme le monde, la France imaginaire de Balzac à l'origine. C'est-à-dire qu'on crée une espèce de modèle en l'occurrence du Sud. Et à l'intérieur du Sud, de cet univers, on a des personnages reparaissants, des histoires qui se croisent.
Oui.
Et pour Flannery O'Connor, oui, alors on parlait justement des personnages grotesques. Je crois que c'est cette idée de caricature. Alors la formule est amusante, tout simplement. Et Flannery O'Connor aimait beaucoup. Elle faisait beaucoup de conférences aussi. Donc
oui. Pleine de citations très drôles.
Voilà, c'est ça. Elle utilisait beaucoup l'humour de ce côté-là. Et en fait, je parlais de la tragédie tout à l'heure et du moment tragique. En fait, très souvent, la tragédie dans Flannery O'Connor s'articule sur ce que j'appelle une syllepse sémantique, c'est-à-dire un mot qui n'est pas compris et qui n'est pas compris dans son sens, dans le bon sens.
D'accord. Par exemple,
la fameuse nouvelle A Stroke of Good Fortune. A Stroke of Good Fortune a un titre impossible à traduire. Il est traduit par un heureux événement, ce qui appauvrit complètement la citation. Effectivement, ce qui va se passer dans cette nouvelle et ce qui va être l'événement révélateur, c'est justement cet heureux événement, c'est-à-dire que la jeune femme qui est l'héroïne de la nouvelle va avoir un enfant. Et elle ne voulait pas d'enfant. Mais stroke, c'est aussi une crise, c'est aussi une crise cardiaque, par exemple, c'est un coup. Et il y a le double sens. Donc elle a très peur d'avoir a stroke, mais elle va avoir a stroke of good fortune. Et donc là, c'est très souvent la révélation, c'est quand un mot va prendre un autre sens. Enfin, il y a plusieurs nouvelles dont les titres même sont des jeux de mots. Les gens bien ne courent pas les rues, c'est aussi ça.
À l'origine, c'est du coup le jeu de mots, il est...
C'est une chanson de blues, en fait, et qui est chantée par une femme qui se plaint que son amant, donc good man, c'est un homme qui est bien, la quitte pour une autre, lui est infidèle, et c'est pas facile de retrouver un bon amant.
D'accord. Donc en effet, on s'éloigne un peu de...
Et Flannery O'Connor avait été frappée par cette chanson parce qu'elle avait entendu à la radio, chantée par une petite fille. La petite fille, évidemment, ne pouvait pas comprendre les sous-entendus.
Oui, ça crée un contraste intéressant.
Elle était très intéressée par ce paradoxe.
Et justement, O'Connor utilise énormément l'humour aussi dans toutes ses nouvelles. C'est un humour parfois aride, où on se dit quel cynisme. Oui. Et je ne sais pas si c'est du cynisme. Voilà, elle a une grande lucidité, je pense, sur tout ce qui l'entoure. Mm-hmm. Et du coup, utilise l'humour. Comment est-ce qu'il s'exprime, son humour, justement, dans ses écrits?
Effectivement, j'aurais des tas d'exemples de jeux de mots de ce genre. Vous avez parlé de la nouvelle, alors cette fois-ci, c'est Les Braves gens de la campagne, Good Country People, où l'héroïne est unijambiste, donc elle a une prothèse.
Oui.
Et donc, la farce, c'est qu'il y a une expression en anglais qui est « to pull someone's leg », donc faire marcher quelqu'un.
Oui, c'est vrai.
Et là, et littéralement, on lui retire sa jambe.
C'est vrai. Mais sur cette note heureuse, je vais vous remercier en tout cas d'être venu dans Secret Livré. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous.
Oui, tout à fait.
Et j'espère que les auditeurs vont être séduits par Flannery O'Connor autant que nous l'avons été. Et on se retrouve dans un mois pour la prochaine de l'émission.